Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les syndics contraints à plus de transparence. Plusieurs décrets viennent de paraître pour obliger ceux qui gèrent les copropriétés à désormais publier certains documents sous peine d'amende. Une petite révolution qui reste toutefois insuffisante pour les associations. Reportage à suivre. Les aveux de l'auteur présumé de l'attentat de Lyon la semaine dernière. On en sait plus sur la préparation de la bombe qui aura pu être meurtrière. Précision à venir du service police-justice. Dans l'actualité également, il y aura bien des policiers traduits en justice pour les violences commises contre des gilets jaunes. Déclaration du procureur de Paris. Une attaque au couteau ce matin dans la vieille ville de Jérusalem. Deux Israéliens blessés, dont un dans un état critique. Et puis on parlera aussi des actionnaires de Facebook réunis en assemblée générale et qui demandent au patron Zuckerberg de rogner sur ses pouvoirs. D'une enquête scientifique qui s'interroge sur les raisons de la disparition de l'homme de Néandertal. Et on finira avec l'amour de Christian Lacroix pour les belles lettres.
Au micro d'Ali Badou dans 20 minutes, 7h50, deux des meilleurs spécialistes de Léonard de Vinci, Mathieu Deldic, Vincent Delieuvin. Ils sont les commissaire de l'exposition La Joconde Nue qui ouvre ses portes demain au musée Condé à Chantilly.
France Inter.
Quand le gouvernement, Sébastien, tente de mettre au pas les syndics de copropriété.
Ces syndics professionnels que les Français ne portent pas dans leur cœur, souvent opaques, facturant des documents à prix d'or, eh bien la loi va changer avec la publication cette semaine au journal officiel de 3 décrets qui devraient améliorer l'information et la transparence. C'est un bon début, répondent les associations de copropriétaires, mais l'État peut encore mieux faire. Les explications de Maxime Deps.
Sachez que vous avez le droit d'exiger toutes sortes de documents de votre syndic pour savoir ce que vous payez, pourquoi. Si votre syndic rechigne à vous les communiquer à l'avenir, il pourra s'exposer à des sanctions financières. Émile Agège, directeur de l'association des responsables de copropriété.
Les charges de copropriété, en l'espace de 10 ans, ont augmenté de 40%. Et donc, aujourd'hui, on avait une difficulté, c'est que les syndics, soit ne remettaient pas les documents, soit traînaient des pieds pour les remettre. Donc, pour la première fois de l'histoire, on a enfin prévu des pénalités à l'égard du syndic pour le contraindre vis-à-vis des droits du conseil syndical.
Sans réponse de votre syndic, au bout d'un mois suivant la demande, la contravention pour ce dernier pourra s'élever à 15 euros par jour. Le décret s'applique depuis cette semaine, en attendant un deuxième qui, lui, imposera au syndic la mise en ligne d'informations minimum, aujourd'hui encore souvent dissimulées aux propriétaires. Le souci, c'est que ce décret-ci n'entrera en vigueur que d'ici un an, pas avant juillet 2020.
C'est d'autant plus regrettable que le Premier ministre avait demandé à ce que les dates d'application ne soient pas ramenées au calendrier grec.
Les associations qui attendent par ailleurs du gouvernement un autre décret promis par Édouard Philippe sur le plafonnement du prix de l'état daté. Sa rédaction qui ne prend que quelques minutes reste facturée 300, des fois 400 euros selon l'ARC qui comprend dans ces conditions le désamour des Français pour les syndics de copropriété.
Maxime Deps du service économique de France Inter.
Et après 4 jours de garde à vue, il est 7h34. L'auteur présumé de l'attaque de Lyon a commencé, Sébastien, à parler aux enquêteurs.
Ce jeune Algérien de 24 ans a reconnu hier avoir prêté allégeance à l'État islamique, même si pour le moment Daesh n'a toujours rien revendiqué. Devant les policiers antiterroristes, il a aussi reconnu avoir fabriqué la bombe de vendredi dernier, un engin qui a heureusement mal fonctionné mais qui aurait pu être dévastateur. Les enquêteurs sont persuadés aujourd'hui que l'auteur de cet attentat voulait tuer à grande échelle Emmanuel Leclerc.
Les experts en police scientifique et les démineurs qui sont intervenus vendredi dernier ont vite compris que l'on était passé à deux doigts d'une catastrophe encore plus importante. Ils ont d'abord été impressionnés de voir que cette fois le terroriste avait réussi à confectionner un mécanisme de déclenchement à distance à partir d'un téléphone, ce qui les a moins surpris lorsqu'ils ont découvert dimanche soir dernier qu'il s'agissait d'un ancien étudiant en informatique. Un homme âgé de 24 ans, on le sait, qui en revanche n'était heureusement pas chimiste de formation pour assembler les différents composants nécessaires à la fabrication du TATP, cet explosif qualifié de très instable. Un proche de l'enquête explique aujourd'hui que si Hichem Mejdoub avait réussi sa bombe, il est très probable qu'il se serait d'ailleurs fait lui-même exploser sur son vélo avec les secousses du trajet avant d'arriver dans le centre de Lyon pour déposer son colis.
les piéger.
Emmanuel Leclerc, c'est une interview qui provoque la colère des policiers. Le procureur de Paris est à la une du Parisien ce matin. Rémy Hetz, accusé par les Gilets jaunes de couvrir les violences commises par les forces de l'ordre pendant les manifestations des dernières semaines et qui, pour la première fois, assure, je cite, que des policiers seront renvoyés devant la justice. On part à l'étranger avec Donald Trump qui ouvre un nouveau front dans sa guerre commerciale tous azimuts. Le président américain met désormais directement la pression sur le Mexique et menace son voisin d'une hausse des tarifs douaniers si le Mexique ne met pas fin à l'immigration clandestine. Guerre commerciale encore avec cette menace de la Chine, cette fois, de couper les exportations de terres rares vers les États-Unis. On en parlait ici même hier matin. Les terres rares, ces métaux essentiels à la fabrication des smartphones, des pots catalytiques ou des ampoules basse consommation. Pékin mettra-t-il ces menaces à exécution? En tout cas, les marchés financiers s'inquiètent déjà de ces tensions internationales qui ne font que croître. Un bras de fer qui n'est pas prêt d'en finir, si l'on en croit l'analyse de Christopher Dembick, économiste chez Saxo Bank.
On se rend compte qu'indéniablement, la Chine a complètement changé d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas avoir un accord dans l'immédiat qui lui serait imposé par l'extérieur. Les responsables chinois commencent à prendre conscience que dans tous les cas, ils vont certainement avoir Donald Trump pour un second mandat, donc les relations commerciales vont être dans tous les cas compliquées, il n'y a pas de raison de se presser. Il y a à peu près 3 semaines de cela, tout le monde pensait encore qu'on aurait un accord au mois de juin, notamment l'occasion du G20 qui a lieu à Osaka, au Japon, à la fin du mois de juin. Mais on s'est rendu compte que finalement, les relations se sont extrêmement rapidement détériorées entre la Chine et les États-Unis, chacun y allant de ses propres représailles. L'un des aspects est notamment lié aux terres rares, parce que c'est effectivement un actif qui est extrêmement stratégique. Aujourd'hui, du point de vue des marchés financiers, on sait qu'il n'y aura probablement pas d'accord commercial cet été et on s'attend plutôt à un scénario du pire, c'est-à-dire de nouvelles représailles pour faire face à la guerre commerciale qui est quand même enclenchée à l'origine par les États-Unis.
L'économiste Christopher Dembick avec Laurent Kramer.
Faut-il virer le patron de Facebook?
Virer Mark Zuckerberg. Le slogan était affiché en grand hier sur la façade d'un hôtel californien, un hôtel qui accueille l'Assemblée générale des actionnaires du géant du numérique, une AG sous tension. Le pouvoir du PDG fait l'objet de multiples critiques ces derniers temps, au point qu'une partie des actionnaires eux-mêmes demande maintenant au fondateur du réseau social de réduire sa mainmise, d'instaurer des contre-pouvoirs. Réponse de l'intéressé, circuler, il n'y a rien à voir. Los Angeles, Loïc Piala.
Seriez-vous prêt à renoncer à une partie de votre pouvoir, demande une actionnaire. Mark Zuckerberg prend 4 minutes pour répondre, évoque le besoin d'une régulation du secteur, mais ne dit jamais oui ou non. L'actionnaire insiste. Seriez-vous prêt à renoncer à votre rôle au sein du conseil d'administration? Cette fois, le modérateur met fin au débat et passe à une autre question. Habituellement, dans une assemblée générale, une action équivaut à une voix. Mais chez Facebook, certaines donnent le droit à 10 votes. Ce sont celles que Zuckerberg détient. Elles lui donnent la majorité, même s'il ne possède que 15% du groupe. D'où le terme d'autocratie, parfois utilisé pour décrire le réseau social. Ça n'a donc étonné personne que les propositions réclamant la fin de ce système ou la nomination d'un membre indépendant au conseil d'administration soient rejetées. Surtout que les résultats financiers continuent de ravir les investisseurs. Mais à l'image du message, virer Zuck projeté sur l'hôtel où se tenait l'AG, ces propositions visaient avant tout à exprimer le malaise d'une partie des actionnaires. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Aux États-Unis, toujours, les traders de Wall Street peuvent aussi être des papas. Grande victoire hier. Après une action de groupe et une plainte, la banque JP Morgan Chase accepte de verser 5 millions de dollars à des salariés hommes qui s'estimaient discriminés dans le cadre du congé parental. On ne leur avait pas, disent-ils, accordé les mêmes droits qu'à des mères. Elles sont bien pratiques pour nettoyer les fesses des bébés ou la poussière sur les commodes, mais les lingettes polluent gravement la planète, impossible à recycler et bouchant les canalisations. Le gouvernement réfléchit donc à instaurer un système de pollueur-payeur, comme dans la filière des piles et des pneus, information de nos confrères du Parisien. Lui n'utilisait sans doute pas de lingette, mais ce n'est pas pour cette raison que l'homme de Néandertal a disparu. Une disparition qui, 40 000 ans après, pose toujours question. Est-ce une épidémie, un refroidissement du climat, une infériorité intellectuelle? Des hypothèses qui n'ont jamais été tranchées. Dernière théorie en date, envisagée par 4 chercheurs américains, américain, une fertilité insuffisante des femmes néandertaliennes. Les précisions de Sophie Becherel.
La thèse d'un changement démographique n'avait jamais été testée. C'est fait grâce à des modélisations, en gros beaucoup de calculs. Partant d'une population estimée à 70 000 personnes réparties en trois zones en Europe, quatre chercheurs ont fait intervenir trois critères: mortalité, migration et fertilité. Le scénario le plus vraisemblable de l'extinction est apparu avec un problème de fertilité, explique Sylvana Condemi, paléoanthropologue au CNRS.
On a vu que c'est pas la fertilité de l'ensemble des femmes néandertaliennes, mais c'est simplement les plus jeunes, environ moins de 20 ans. Si le taux de fertilité diminue de 8%, les néandertaliens disparaissent rapidement, à l'échelle géologique ça s'entend, en 4000 ans. Si au contraire la fertilité diminue de 2,7%, elles disparaissent dans un temps beaucoup plus long de 10 000 ans.
Dans les deux cas, il n'y a pas eu de cataclysme, insiste Anna De Giovanni du laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique.
Le point le plus important, c'est justement le fait que cette diminution est très faible. Nous n'avons pas eu besoin d'imaginer une mortalité incroyable, une fertilité très réduite. Donc rien de catastrophique, mais un tout petit changement aurait pu permettre la disparition de Néandertal.
Reste à comprendre maintenant pourquoi les jeunes femmes avaient moins d'enfants. Peut-être ont-elles manqué de nourriture à cause de la compétition avec Homo sapiens.
Sophie Becherel, spécialiste de sciences à Inter.
Et on termine, Sébastien, avec de la littérature, les 40 ans de la collection Bouquins.
Bouquins chez Robert Laffont, une sorte de pléiade populaire, une collection pour laquelle le grand couturier Christian Lacroix a été beaucoup sollicité ces dernières années. Pas question de faire des robes en papier, mais c'est lui, en revanche, qui a imaginé les couvertures d'une dizaine d'ouvrages de la collection de Rimbaud à Sagan, Christian Lacroix et les livres, une véritable histoire d'amour que nous raconte Ilana Mor-Youssef.
La littérature et surtout la poésie ont toujours tenu une grande place dans sa vie. Christian Lacroix.
J'aime les mots, les mots même d'une manière un peu esthétique et sensuelle.
Les mots lus en cachette ont beaucoup compté aussi.
On avait des cousins qui étaient receveurs des postes en Lozère. Et chez qui on passait les vacances. Et la sieste, je la faisais sous la boîte où les gens déversaient le courrier. Donc les cartes postales me tombaient dessus, les lettres me tombaient dessus. Et en cachette, j'avoue, quelquefois, j'ouvrais certains courriers, je lisais certaines cartes postales.
Christian Lacroix se souvient du premier roman de Sagan, Bonjour Tristesse, que sa mère a lu et adoré quand il est sorti en 54. Sagan qu'il a croisé plus tard chez les Rothschild. Et bien sûr, le volume des œuvres de Sagan fait partie des 10 de la collection Bouquins pour lesquels il a créé un nouvel habillage.
C'est comme des espèces de collages, comme quand on médite et que les idées passent rapidement comme ça. Il y a un palmier pour dire le sud, il y a vaguement une figure de mannequin des années 50-60 pour dire ce côté un peu mondain, couture. Être adolescent dans les années 60, c'était quand même très formidable, parce que c'était peut-être la dernière époque qui avait un futur, qui regardait un futur.
Des ayants droit de Rimbaud, il a reçu une lettre de remerciement pour la couverture qu'il a dessinée, mais, insiste-t-il, je ne me considère pas comme un artiste. Trop modeste, Christian Lacroix.
Les 40 ans de la collection Bouquins, 10 couvertures dessinées par Christian Lacroix, c'est en librairie, Nicolas.
Merci.